RFI, grand reportage.
Romain Ozoui.
C'est un pays de transit et de départ de l'émigration clandestine vers l'Europe. Depuis quelques années, le Niger tente de lutter contre ce phénomène. Les efforts des autorités se concentrent autour de la ville d'Agadez, dans le centre du pays. Située aux portes du désert du Ténéré et classée patrimoine mondial de l'UNESCO, Agadez a pendant plusieurs années attiré énormément de touristes amoureux du désert. Mais l'insécurité a changé la donne de cette région qui progressivement s'est développée autour de la migration. Les autorités misent sur une loi pour briser les réseaux de passeurs établis à Agadez. Quelles alternatives pour les habitants ? Agadez veut tourner le dos à l'émigration clandestine. C'est un reportage de Binta Diang.
C'est un petit restaurant flambant neuf au cœur du marché Nassarawa. Chafatou Soumeila, la trentaine, pile du piment. Elle prépare un plat local à base de riz et de légumes. Avant, cette jeune femme tenait une gargote qui était en permanence prise d'assaut par de nombreux migrants de passage à Agadez.
Les clients viennent au compte-gouttes. Les activités tournent au ralenti, mais on se débrouille quand même.
Et là, du coup, vous travaillez toute seule. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'autres employés pour travailler avec vous, pour vous aider en cuisine et dans le service.
Oui, puisqu'il n'y a pas de clients, je n'ai pas jugé utile d'embaucher des serveurs. Je n'ai déjà pas de quoi me rémunérer. La situation a complètement changé parce que les étrangers ne viennent plus. Avant l'application de la loi interdisant l'émigration clandestine, toutes nos activités se portaient bien. Mais maintenant, c'est très difficile.
À peine lancée dans cette nouvelle entreprise, Chafatou n'y croit pas trop. Un climat de morosité plane dans les rues d'Agadez. Pendant des années, Mabrouk Courzet était chauffeur. Dans son pick-up, il transportait des personnes qui veulent émigrer de manière irrégulière vers l'Europe. Mais il est désormais interdit d'acheminer des migrants dans le désert. Passeurs et rabatteurs risquent entre 5 et 10 ans de prison pour trafic illicite de migrants, une forte amende et la saisie de leur véhicule. Depuis que cette loi est appliquée, Mabrouk est au chômage. Ce jeune parle avec amertume de l'arrestation de son frère.
Mon frère est en prison. La police a saisi 6 véhicules et a arrêté plusieurs amis aussi, qui étaient passeurs, comme mon frère. Je suis sans nouvelles. Cela me fait de la peine. Le gouvernement mène sa politique, c'est une chose. J'ai dû cesser mes activités autour des migrants parce que c'est devenu illégal. Je pouvais gagner jusqu'à 1 million d'euros. Maintenant, je tente d'encadrer mes activités, d'avoir des papiers, de proposer des locations. Mais avec ces courses légales, je gagne au mieux 150 euros. Aujourd'hui, je cherche un autre travail pour survivre et il n'y en a pas. Je dois nourrir ma famille, mais ici, les activités tournent au ralenti.
En 2011, la disparition du guide libyen Muammar Kadhafi a changé la donne. Cela a d'abord libéré un accès au littoral et ouvert une route pour les personnes désirant émigrer en Europe. Ensuite, des marchandises ont été pillées, récupérées par des privés qui les commercialisent dans la région. Vu d'Agadez, cet appel d'air a été vécu comme une occasion en or. Lorsque les passeurs déposent les migrants en Libye, avant de rentrer sur Agadez, ils emmènent avec eux des commerçants qui en profitent pour faire leurs courses. Ces commerçants d'Agadez achètent notamment du matériel agricole, des berlines dernier cri et surtout des véhicules tout-terrain. Elhaj Abdoulaye Ibrahim fait partie de ces entrepreneurs qui ont profité de cette ouverture. Mais aujourd'hui, plusieurs dizaines de véhicules neufs encombrent son magasin. Pour lui, cette nouvelle loi a eu un impact négatif sur ses affaires.
Les années passées, là, 2015, 2016, 14, 15, on vend des véhicules. Parfois, moi-même, je vends 15, 10 par jour. Les gens du Mali viennent acheter, les gens du Nigeria, même, ils viennent pour l'acheter. Parce que les gens du Nigeria, ils paient le marque Toyota, les 4x4, avec les Hiace. Les grands bus là, 19 places, 20 places, ils achètent ça. Parce que nous ici, on paye les 4x4 parce qu'on travaille avec ça. Il y a le or chez nous, il y a les gens qui partent de la Libye, il y a les gens qui ont leur famille en brousse ici. Il faut qu'il y ait un 4x4 pour le désert là. C'est pour ça qu'ils achètent les 4x4.
Est-ce que la loi là qui a été introduite, est-ce que toi tu penses que ça a un impact sur ton business?
Oui, ça me touche mon business. Parce qu'avant, l'arabe là que tu vois, il amène les véhicules, le toubou là. Avant, ils ont leur Toyota Hilux. S'il prend passagers, 20 personnes, 30 personnes, arrivées à la Libye, l'argent là, elles vont payer les véhicules pour amener ici. Elles vont nous vendre moins cher. Maintenant, pourquoi il n'y a pas de véhicules même? Et le marché s'est gâté. Avant, les véhicules de 2 millions. Avant. Maintenant, ça fait 3 millions. Et même maintenant, il n'y a pas le travail là. Maintenant, les gens là, ils ne viennent pas même de la Libye. Si tu viens de la Libye, tu amènes la voiture. Tu ne sais pas combien de temps tu vas pour vendre. Et encore pour retourner, même, c'est un grand problème. Maintenant, tout le monde que tu vois là, ici à Agadez, il est touché par, à cause de l'immigration.
Du chauffeur en passant par les restaurateurs, les vendeurs de kits de survie pour le désert ou encore les guides, de nombreux habitants d'Agadez ont profité de manière directe ou indirecte de cette économie parallèle. Sur 11 mois, ces activités représentent un bénéfice de 60 milliards de francs CFA selon les autorités locales. Difficile dans un tel contexte d'imaginer ces mêmes personnes abandonner un travail aussi lucratif. Des alternatives ont été proposées pour soutenir des habitants dans leur projet de reconversion. Toutes les attentions se focalisent autour d'un programme financé par l'Union européenne et porté par la Haute Autorité pour la Consolidation pour la Paix. Ahmed Algous, le coordinateur régional de ce programme, s'inquiète des retards pris ces derniers mois.
Nous apportons, sur la base de la demande formulée par l'acteur, un appui financier qui va jusqu'à 1 500 000 francs CFA par demande et par AGR proposé. Nous, la Haute Autorité pour le plan de reconversion, a reçu de son partenaire 250 000 euros. Malheureusement, nous ne pouvons satisfaire que 100 acteurs sur les 6 500 qui sont enregistrés comme tels.
Officiellement, il n'y a plus de migrants à Agadez. Mais la demande est toujours palpable et de nombreux passeurs, peu convaincus par le programme de reconversion, préfèrent travailler dans l'illégalité. Assis à l'entrée de sa petite quincaillerie, Alassane reçoit de nombreux coups de fil. D'autres passeurs l'avertissent de l'arrivée imminente de migrants maliens.
Je transporte les migrants dans le désert depuis 8 ans. Je n'ai jamais cessé cette activité. L'État a pris une loi pour interdire le transport des migrants et certains passeurs ont arrêté leur travail. Mais moi, je continue mon activité parce que je n'ai pas bénéficié du programme de reconversion.
Mais vous-même, par exemple, quand vous avez vu qu'il y a eu des arrestations de passeurs, de coxeurs,
même si la police arrête des gens, il y a encore beaucoup de personnes qui continuent de transporter des migrants dans le désert. Les autorités ont saisi les véhicules de plusieurs amis passeurs, mais cela n'empêche pas de continuer. Je gagne ma vie grâce à cette activité. C'est ce qui me permet de faire vivre ma famille, donc je ne veux pas arrêter. Je suis prêt à acheter d'autres véhicules pour pouvoir continuer mon travail correctement.
Les lundis soirs, moment de départ pour le désert, sécurisé par des escortes, quelques rares pick-up franchissent la barrière, tenue par des douaniers à la sortie de la ville. En réalité, des départs officieux se déroulent le reste de la semaine, à des heures tardives et sur d'autres routes non surveillées et beaucoup plus dangereuses. Giuseppe Lopreté est le responsable de la mission de l'Organisation internationale pour les migrations au Niger. D'après ce haut fonctionnaire des Nations Unies, le coût du voyage vers l'Europe est sans doute très élevé en raison du durcissement des autorités.
En septembre 2016, on estimait qu'il y avait 5 à 7 000 migrants par semaine qui essayaient d'aller en Algérie et en Libye. Aujourd'hui, on estime à 5 000 migrants par mois. Il y a un message qui est arrivé, je pense, au réseau criminel, pas seulement ici au Niger, mais dans les pays d'origine. Donc, ce n'était pas évident de réussir à passer, par exemple, par les checkpoints ou d'organiser un convoi avec 100 ou 200 véhicules, comme c'était le cas avant l'application de la loi. Aujourd'hui, les passeurs font beaucoup plus attention. Ils doivent trouver d'autres routes. Les messages dissuasifs, donc les prix ont augmenté 3 fois, on estime, selon ce que les migrants sont en train de dire. Et donc les conditions sont différentes aujourd'hui par rapport à fin 2016.
Pour échapper aux nombreux contrôles, les personnes qui souhaitent émigrer clandestinement vers l'Europe logent désormais hors d'Agadez. Ils vivent dans des foyers que l'on appelle des ghettos. Ils se barricadent. Dans l'enceinte de l'une de ces concessions, les jeunes de passage ont tous inscrit à l'aide d'un morceau de charbon des noms de villes d'Espagne ou d'Italie qui les font rêver. Parmi ces jeunes, il y a Mamadou, 23 ans, originaire de Sikasso dans le sud du Mali. Voilà 3 semaines qu'il attend que sa famille finance la suite de son voyage. 3 semaines qu'il s'occupe comme il le peut. Il joue aux dames ou bien il fait la sieste sur une natte posée à même le sol.
Ça fait 20 jours maintenant que je suis là d'ici. Je ne fais rien, rien. Je suis là pour attendre. Quand j'ai des sens pour partir, je veux partir.
En attendant de savoir comment partir, est-ce que tu sais comment ça se passe le reste du chemin?
Bon, on m'explique parce que il y a d'autres ONG ici. Il me dit que arrivé au Sahara, les gens te vendent. Pourtant, quand tu as manque d'eau ou bien en cas de panne de voiture, ça sera très difficile. Ça peut être même un perte humaine. Je ne tiens pas compte de ça. Je veux partir. Ce que Dieu fait, il fait.
Abdouladi Miko est footballeur professionnel. Ce temps d'attente, ce jeune originaire du nord du Nigeria le passe sur le terrain à se perfectionner. Abdouladi a été recruté dans le club local d'Agadez. Avec son salaire, chaque mois, ce joueur de 19 ans économise pour financer la suite de son périple. Abdouladi se verrait bien jouer à Hambourg en Allemagne ou à Naples en Italie.
J'ai commencé à jouer au foot lorsque j'avais seulement 7 ans. J'ai toujours rêvé d'intégrer un club européen. Une fois la saison terminée avec le club d'Agadez, je vais traverser le désert pour aller en Europe. Chaque fin de mois, je mets 50 000 francs CFA de côté. J'aimerais atteindre les 200 000 francs CFA. Et puis j'irai en Libye. Une fois là-bas, je trouverai un petit travail pour financer le reste de mon voyage. Je pense que cela peut durer 2 ou 3 mois. Ensuite, je continuerai ma route. Ou bien l'autre option, je reçois une offre d'un club de foot européen, je l'accepte et je pars en Europe.
Rien n'est très certain dans ce projet. Traverser le désert, finir dans une prison en Libye, toutes ces possibilités, tous ces dangers sont bien loin d'effrayer ce jeune footballeur.
Toutes ces histoires que l'on entend, qui se produisent dans le désert, tout cela ne me fait pas peur. Si je veux partir, je partirai. Si je dois mourir dans le désert, eh bien, c'est mon destin. Je m'éteindrai dans le désert.
Dans l'immédiat, Bachir Hama, le président du club Nassara, tente de fixer un objectif à ce jeune, la Coupe nationale. Après les entraînements, Bachir Hama, qui est lui-même un ancien passeur, prend le temps de discuter avec ses jeunes joueurs pour les convaincre de rester en Afrique.
Nous avons 4 nouveaux joueurs du Nigeria. Et ils jouent dans notre club. Leur intention, c'est de partir en Europe jouer. Comme maintenant, il y a la loi et encore, il y a beaucoup de risques. Moi, je l'ai expliqué maintenant pour prendre la route, aller à Libye. Ce n'est pas facile. Vaut mieux de rester jouer ici. Après, vous retournez chez eux. Donc, je ne sais pas. Après la saison, ils vont rester ou bien ils vont continuer. Mais moi, je l'ai expliqué vraiment, la route, ce n'est pas bon. Il y a trop de risques. Donc, vous le savez, les migrants, la majorité, ils quittent leur pays avec décision. Donc il y a beaucoup, même si tu l'expliques, ils ne peuvent pas rester, ils vont continuer.
Qu'est-ce que vous leur dites pour les convaincre de rester?
Avant, nous faisons notre travail sans problème. C'est la voie légale, c'est le chemin direct ici, Libye. Maintenant, c'est illégal. Les gens, ils prennent les routes qui ont des risques, des nouvelles routes. Des fois même, les chauffeurs abandonnent les gens dans le désert. Et encore à Libye, il y a trop de risques. Il y a des maisons de crédit, il y a des gens qui ont des problèmes, tout le monde a des armes. Les Africains, ils souffrent beaucoup à Libye. Là-bas même, il y a des risques. Et encore pour traverser, encore pour aller en Italie, il y a beaucoup de risques. On l'explique des choses comme ça pour essayer de les convaincre.
Mais ça ne décourage pas tout le monde?
Non, ça ne décourage pas tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui vont dire que la mort, c'est une seule fois. La majorité des Sénégalais, Ivoiriens, ils vont te dire que chacun a sa chance.
Pour contourner les postes de contrôle, les passeurs dessinent de nouvelles routes pour traverser le désert. Pour être plus discret, Alassane transporte moins de migrants sur ses véhicules.
Avant, je transportais 30 migrants par véhicule. Maintenant, avec cette loi, j'ai dû réduire le nombre de passagers à 20 personnes. Et l'espace qui s'est libéré sert à mettre les bagages. Pour traverser le désert, les migrants ont besoin d'eau. Il faut 8 bidons de 25 litres d'eau par personne. Et puis le reste, on complète en chemin. On se ravitaille dans les puits. Avant, on mettait seulement 2 à 3 jours pour aller en Libye. Et maintenant, avec les nouvelles complications, il faut 5 jours. Il faut tromper des agents qui surveillent le territoire. Et cela prend du temps.
De leur côté, l'Union européenne, le Niger et plusieurs autres pays du continent africain affinent leur offensive. Création d'équipes conjointes d'investigation, amélioration de la coopération judiciaire, renforcement des contrôles aux frontières, tout ceci répond à une priorité, démanteler les réseaux de passeurs. Comme l'explique Raoul Mateus Paola, le chef de délégation de l'Union européenne au Niger.
L'objectif principal pour l'Union européenne est de sauver des vies. Donc c'était insupportable de voir tous ces migrants qui mouraient à la Méditerranée et aussi dans le contexte du Niger, dans le désert. Parce que c'est épouvantable. Beaucoup de gens mouraient dans l'anonymat total parce qu'il n'y avait pas de statistiques. Hein. Donc beaucoup de morts, beaucoup de souffrances. On a vu la situation en Libye, le désespoir des gens. Donc l'Union européenne a beaucoup travaillé dans ce contexte-là, donc avec Frontex, mais aussi en soutenant l'OIM pour aider aussi à évacuer et à rapatrier donc les migrants en errance. Et donc l'Union européenne a donné beaucoup de fonds, hein, donc y compris pour les évacuations, les sorties de Libye.
Les autorités locales expriment un scepticisme prononcé au regard de cette politique de fermeture des frontières. Mohamed Anako, le président du conseil régional d'Agadez.
Il faut que l'Europe, l'Afrique s'asseyent. Il faut que donc, ces deux institutions s'asseyent pour trouver une solution définitive à ce problème de migration. On aura beau faire tout ce que nous sommes en train de faire. Moi, je pense que c'est des solutions pas de longue durée. C'est vrai, on va régler pour un temps le problème de migration, mais ça ne va pas finir. C'est quelque chose qui est... Donc, il faut un vrai développement des pays africains. C'est un phénomène naturel, la migration, en réalité. Quoi.
Pour ce responsable politique, il faut d'abord proposer plus d'alternatives pour retenir la jeunesse africaine. Mohamed Anako.
Il faut amener les jeunes, la jeunesse africaine, à prendre conscience déjà quoi, qu'elle a des potentialités chez elle et qu'elle peut les développer. Il faut organiser tous ces jeunes. Les appuyer, les accompagner à monter des industries, des sociétés, des entreprises. Parce que j'ai remarqué qu'il y a plus de jeunes diplômés de nos États qui sont en train de partir vers l'Europe. Ce n'est pas des gens qui n'ont pas été à l'école, tous ces jeunes-là. C'est des gens qui ont des diplômes. Vous trouvez des docteurs, vous trouvez des ingénieurs. Donc tous ces gens-là, ils vont en Europe. Ça veut dire que l'Afrique est en train de perdre aussi, sous un autre angle, ses forces donc, en matière de... Son intelligence est en train de partir. Donc, déjà à partir de nos États, il faut qu'ils s'y consacrent sérieusement à cette question de cette jeunesse qui est en train de quitter.
Agadez veut tourner le dos à l'immigration clandestine. Un grand reportage de Binta Diagne, réalisé par Pierre Chaffanjon.